Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Tulett, et notre invité aujourd'hui qui est...
Souleymane Diawara.
Yes! Ravi de t'avoir avec nous, Souleymane, ancien footballeur international avec le Sénégal, défenseur central pour Le Havre, Sochaux et l'OGC Nice, champion de France avec les Girondins de Bordeaux et avec l'Olympique de Marseille, et vainqueur à 5 reprises, si je ne me trompe pas, de la Coupe de la Ligue. C'est bien ça ?
4.
C'est ça. Donc, 4. J'ai dit 5 ?
5.
Qui m'a donné cette info ? 4. 4 fois la Coupe de la Ligue, quand même.
Ouais, c'est ça, 4 fois.
Ah, et tu n'as pas l'air très sûr.
Là, tu me poses une colle. Mais non, c'est 4 fois. Hein? Sochaux, Bordeaux. Ouais, non, t'as raison, 5 fois.
3 fois avec Marseille.
Oui, pardon. Ouais. Je l'avais oublié. Comme j'étais blessé, j'ai pas. Mais c'est vrai, j'ai participé.
Quand même.
Ah, merci, Darren.
Ok,
merci.
Je suis en train de te booster déjà.
Merci, merci.
Tu pensais
merci.
Avoir gagné 4 fois la Coupe de la Ligue. C'est 5 fois. Formidable. Près de 600 matchs joués en pro. À quel point ça a été difficile, avant de se lancer sur la liste, de ne choisir que 5?
Mais c'était très difficile. Quand tu m'as demandé de trouver 5 matchs qui ont marqué ma vie... C'est vrai que j'ai eu beaucoup de matchs qui ont marqué ma vie, mais les 5 que je t'ai donnés, je pense que c'est quand même un très beau souvenir.
On va voir ça ensemble. On est parti donc sur les matchs de la vie de Souleymane Diawara. Match numéro 1, Souley, parce qu'on t'appelle plutôt Souley. Hein.
Oui, c'est ça.
Quel est ton choix et pourquoi ?
Ben, mon premier match, comme j'ai pu le dire, ça a été mon premier match avec le club de mon quartier. Il s'appelle Frileuse, c'est dans la banlieue havraise. Et c'était contre les Cheminots du Havre. Pourquoi ce match ?
Déjà, je dois avouer que je n'ai pas pu retrouver les images de cette
rencontre. Ah ouais, c'est vrai que c'était difficile. J'étais en débutant, donc c'était difficile. Il n'y avait pas encore la télé, je pense. Mais pourquoi ce match ? Parce que c'était mon premier match officiel, entre guillemets, parce que j'avais une licence.
Ah.
Et que j'étais content de participer à mon premier plateau, c'est-à-dire un tournoi. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ce match-là est resté aggravé parce que j'avais commencé remplaçant et... ma première entrée, le premier ballon que je touche, je marque contre mon camp. Et c'est pour ça que ce match-là, il me restait en travers de la gorge, mais ça reste un bon souvenir.
Bienvenue dans le foot.
Merci.
Premier ballon et premier but contre son camp.
Exactement.
Oh là là, j'imagine le regard sur les
visages de tes coéquipiers. Mon grand frère qui m'avait inscrit, je pense qu'il a dû dire où est-ce que j'ai mis mon frère. Parce que je crois qu'il n'a pas dû comprendre les règles du foot, mais après, c'est vrai que je me suis rattrapé tout au long de la compétition.
Bon, parle-nous de cette équipe-là. Tu avais quel âge déjà ?
Ouais, j'avais 7 ans, je crois. 7 ans, 8 ans, ouais.
7, 8 ans ? Ouais. La Frileuse, tu dis ?
La Frileuse, oui. Une banlieue havraise.
Pourquoi ça s'appelait comme ça ?
C'est un quartier du Havre. Ouais,
d'accord.
Exactement.
Okay. Et il y avait qui dans cette équipe alors ? Tu avais tes potes ?
En général, on était tous potes du quartier. C'était tous mes amis d'enfance, quoi. On jouait tous ensemble dans le même club et c'était sympa.
Et quand tu avais 7-8 ans, tu étais déjà grand pour ton âge parce
non,
que tu es plutôt costaud aujourd'hui ?
Non, j'étais tout petit, tout maigre.
C'est vrai ?
Mais j'ai grandi d'un coup, moi. Je pense que c'est à l'âge de 14 ans, 15 ans où j'ai vraiment poussé d'un coup.
Ah, okay.
Mais chez moi, on est tous petits au départ.
Ah oui ?
Ouais, on finit tous grands, mais à la base, on est tous des... on vient tous de mon père.
Et toi, quand tu jouais donc à 7-8 ans avec la Frileuse et tu entres en jeu,
ouais.
Tu joues à quel poste alors ?
Bon, vous savez, quand vous êtes débutant, on jette le ballon et tenez, je joue. Mais bon, moi, dans ma tête, c'était numéro attaquant parce que c'est vrai qu'à l'époque... J'étais fan de Chris Waddle.
Ah, des bonnes références. Ah, tu vois, ça, tu me fais plaisir.
Ouais, Francesco, il y avait beaucoup de joueurs où j'étais fan. Donc, c'est vrai que quand on commence étant enfant, on veut tous marquer des buts. Donc, on commence tous attaquants. Mais même si on finit pas attaquant, mais on commence tous attaquants.
On rêve pas de marquer des buts, oui. Mais pas contre son camp, normalement.
Ouais,
mais bon.
Malheureusement, j'ai confondu de but.
OK, donc ça, c'est des premiers pas avec une licence, comme tu dis. Le Havre, tu es arrivé là-bas à quel âge?
Au centre de formation,
je suis arrivé. Non, mais je...
Moi, je suis né en Afrique. On est arrivé, j'avais un an et demi.
Ah, tu étais tout petit?
Oui, oui.
Pas beaucoup, bon, donc tu étais trop petit pour avoir des souvenirs de Sénégal.
Non,
quand tu étais bébé,
non,
quoi.
Non, du tout.
Mais un 24 décembre, quel cadeau pour tes parents?
Ah, c'était le plus beau cadeau que j'ai pu offrir à mes parents. C'est ce que j'ai dit à ma mère tous les jours.
Est-ce qu'elle est tous les jours d'accord avec toi?
Non, pas tous les jours, mais bon, une grande partie.
Né donc au Sénégal, à Gabou.
C'est ça.
Et aujourd'hui, tu as des liens encore avec ton pays, parce que on va y parler tout à l'heure, mais tu as joué une cinquantaine de fois pour ton pays aussi.
Oui, oui, non, bah, j'ai toujours des liens. J'ai toujours ma famille qui est là-bas. Ma mère, mes parents, ils vont souvent là-bas. Moi, je vais souvent là-bas. J'ai mes cousins, mes tantes, mes oncles qui sont toujours là-bas. J'ai toujours ce lien avec mon pays.
Et au Havre, donc, tu joues dans ton quartier avec tes potes. Tu parlais d'un frère, mais vous étiez combien à la maison?
On est 11 enfants.
11 enfants?
Ah oui, mes parents n'ont pas chômé. Hein.
Ah oui, ah oui.
Ah oui.
Et toi, tu étais numéro quoi?
Numéro 4.
Numéro 4? De 11, combien de garçons, combien de filles?
Il y a 7 garçons et 4 filles.
Waouh,
ouais,
pas mal.
C'est une grande famille.
Ah oui, mon père, il était le plus petit de 12 enfants.
Tu vois,
ah oui.
Donc ça va, t'es
donc
pas choqué.
En Angleterre aussi.
Ça choque pas aussi là-bas. Je pensais qu'il n'y avait qu'en Afrique.
Ah oui, comme quoi. Hein. Le plus jeune de 12. Mais 11 enfants, c'est presque une équipe de foot d'ailleurs.
C'est une équipe de foot. Ouais. Plus mes parents, deux remplaçants. À l'époque, c'était 13, donc on avait une équipe de foot.
Tout le monde jouait?
Ouais. Bon, à part les filles, mais tous les garçons ont joué.
D'accord. Et à la maison, donc, le foot, c'était le sport numéro un quand tu étais petit?
J'ai mon grand frère, Djibril Diawara, qui était un ancien footballeur aussi, qui nous a encore motivés, donné cette motivation. Après, j'avais d'autres frères, mais moi, malheureusement, ils ont arrêté un peu plus tôt. Et j'ai l'avant-dernier qui joue encore à Martigues, qui est Abdoul Diawara, avec la nationale. Donc, c'est vrai que c'est une famille de footballeurs.
Ouais, il y avait un petit niveau dans cette famille.
Mes neveux, mes nièces qui sont dans les clubs pros.
D'où ça vient, cet athlétisme Non, mais pour être plusieurs à réussir dans le sport, c'est rare. C'est maman, c'est papa, c'est le mélange.
Pourtant, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout sportifs. Hein.
Ah,
mon père, c'est un ouvrier qui vient d'Afrique. Il est venu, il a commencé à travailler très jeune. Donc... Non, mais après, je pense que quand vous avez grandi dans un quartier, vous savez, le foot, c'est le sport le moins cher. Et donc, c'est plus facile pour nous de pouvoir pratiquer ce sport. Et comme il n'y avait pas grand-chose à faire, on prend un ballon, on s'amuse, ça suffisait amplement. Donc, je pense que c'est là d'où est venue l'envie de pratiquer ce sport-là.
Et tu parles de ce match quand tu as 7-8 ans. On essaie de t'imaginer. Donc, tu dis... plutôt frêle et petit.
Ouais.
Tu es quel genre d'enfant, Soulé? Aujourd'hui, on te connaît comme un garçon joyeux.
J'ai toujours été un petit joyeux. Je crois que j'ai mon petit caractère, comme tout le monde. Mais en général, je suis quelqu'un de très joyeux. Parce que je me dis, j'ai la chance quoi, d'avoir la santé, ensuite de réaliser des rêves. Donc... pourquoi être triste, quoi?
Voilà, on touche du bois.
Oui, bien sûr.
Que ça continue comme ça. Donc, à la maison, dans ce quartier du Havre, ça se passe comment? Quel souvenir tu as de cette enfance avec toute cette grande famille?
Que des bons souvenirs. Hein. Vous savez, quand vous êtes 11, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Il y a toujours de l'animation. Entre celui qui se fait gronder, celui qui se fait taper. Quand on est nombreux, il y a de tout. Donc, tu passes une merveilleuse enfance. Moi, pour un autre monde, je changerais mon enfance, quoi.
Ouais.
Parce que franchement, je me suis régalé. Quand je repense, là, je me dis, putain, j'ai eu de la chance quand même.
Jamais le temps de t'ennuyer avec tous ces frères et sœurs.
Tu ne peux pas t'ennuyer.
Et j'en parlais dans le podcast il y a quelques semaines avec Vikash Dorasso,
qui est du Havre aussi.
Oui, effectivement. Et il disait que dans les quartiers, tout le monde jouait au foot.
Ouais.
C'est comme ça que lui aussi, il a commencé.
Comme on n'a pas trop les moyens de faire, on va dire, entre guillemets, du tennis ou ou du golf, ou même si on n'a pas de green.
Le polo n'était pas pour
non,
vous.
Pas encore. Donc, c'est un sport qui est accessible pour tous. Donc, c'est pour ça voilà. que tout le monde joue.
Ouais, c'est ça. Mais à quel moment tu commences à comprendre que peut-être que tu peux faire carrière dans le foot?
Moi, ça a été compliqué parce qu'au début, depuis tout petit, quand j'allais au stade voir mon club de ma ville, Le Havre, et je voulais faire ce métier. Mais je ne sais pas si vous avez suivi mon histoire un peu, j'avais fait beaucoup d'essais avant de pouvoir rentrer. C'est vrai que j'ai failli lâcher à un moment donné jusqu'à ce que mon grand frère Salif a toujours cru en moi. C'est quand j'ai fait mon dernier essai avec Le Havre et que Jean-Marc Nobilo m'a dit qu'il me prenait. Là, j'ai commencé à dire que là, c'est mort pour qui que ce soit parce que je sais que je vais réussir.
Ah ouais?
Ouais, j'ai tellement galéré et Jean-Marc Nobilo m'a donné cette chance. Dès que je me suis dit, s'il m'a donné cette chance, je ne vais plus la lâcher. Et j'ai travaillé deux fois plus que les autres parce que j'avais beaucoup de retard. Et là, je me suis dit, oui, je ne vais pas lâcher.
C'est parti.
C'est le plus dur pour moi, c'était de rentrer au centre de formation.
D'accord.
Parce que c'est toujours difficile de rentrer dans un centre. Mais dès que je suis rentré dans le centre de formation, je savais ce que je voulais. J'étais nul à l'école. Je ne suis pas très manuel, donc j'avais que le sport pour pouvoir m'en sortir.
Merci Jean-Marc.
Merci tous les jours. Oui. Merci mon frère Salif et merci Jean-Marc Nobilo.
Donc te voilà, jeune professionnel avec Le Havre, club doyen de France. Et nous sommes désormais pour ton second choix, ton deuxième choix. Le 25 avril 1999, il y a un match de Ligue 1 au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et donc Le Havre. Pourquoi tu choisis ce match-là?
Parce que c'est mon tout premier match en professionnel. Là, je découvre le monde professionnel. J'étais déjà dans le groupe, j'étais content, mais de pouvoir entrer en jeu contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, un stade où on allait souvent quand on était jeune avec Maison de Jeunesse, c'était comme un rêve, quoi. Donc, c'est pour ça que ce match-là, je ne pourrais jamais l'oublier.
Oui.
C'est mon tout premier match contre le Paris Saint-Germain, quoi.
Fouler la pelouse.
La foulée du Parc des Princes, à l'époque, le plus beau stade de France. Donc, waouh, quoi.
Waouh, ouais. Là, ça y est.
Ouais,
ça y est.
Je rentre dans le monde de.
Ouais. Hop, attention, j'arrive. Tu te souviens de qui tu as remplacé?
Je crois que c'est Ludovic Paulet, non?
Je pense que c'est Mamar Mamouni.
Ah, c'était Mamar?
Ouais, apparemment. C'est ce que j'ai pu trouver
sur
la fiche de match.
Je pensais que c'était Ludovic Paulet.
Après, c'est selon Wikipédia, hein. Peut-être que c'est.
Non, c'est mais c'est
ça.
Possible.
En tout cas, il y a une défaite 3-0.
Ouais, 3-0, j'avais dit 2-0, mais c'est 3. Ouais.
Doublé de Michel Madar. Ouais. Il y avait Marco Simone aussi sur la pelouse. Ouais. Toi, tu t'es retrouvé à te frotter avec qui?
Il y avait un Brésilien. Comment il s'appelait? Je m'en souviens plus. Parce qu'il m'avait fait jouer latéral, moi.
Ah oui?
Je suis rentré latéral.
Ouais.
Je me souviens plus de son prénom, ce Brésilien. Là. Je me souviens, le premier ballon que j'ai, je veux aller en rapide, il m'a fait deux pincements de jambes. J'avais rien compris. Bienvenue dans le monde des grands. Ça n'avait rien à voir, ça allait trop vite pour moi. Mais...
Ah oui?
Bon, j'ai réussi à m'adapter.
C'était impressionnant.
C'était impressionnant. Pourtant, j'ai joué que, je crois, 10 minutes ou 15, un truc comme ça. Mais waouh! J'étais fatigué, en fait. 15 minutes de jeu. Je passe du monde amateur au monde en Ligue 1.
Ouais.
Contre le PSG de Simone, Madar. C'était une grande équipe à l'époque. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu la pression quand même.
20 ans seulement, et voilà, sur la pelouse du Parc des Princes. Et pour ton troisième match, tu as choisi une rencontre de quelques jours seulement plus tard. Parce qu'après avoir été remplaçant et joué quelques minutes, là on est le 5 mai 1999, quelques jours plus tard. Et donc, et pour la première fois, tu es titulaire en pro avec le HAC à Auxerre. Comment ça s'est passé cette fois-ci? Tu te sentais prêt?
Non, pas du tout. Je me sentais pas du tout prêt, mais j'avais pas le choix. À la base, je me suis entraîné avec les pros, mais le week-end, je devais repartir jouer avec la CFA.
Ah oui?
Ouais, parce que tout le monde était là, donc J'étais pas dans le groupe, chose qui est normale. Il fallait que je travaille un peu plus. Et le malheur de l'un fait le bonheur des autres. Donc, ce jour-là, je pensais que c'était ce match-là, mais je crois que c'était la veille de ce match contre Auxerre où Ludovic Paulet se blesse. Et je me retrouve dans le groupe, mais on ne connaît pas la composition encore.
Ah.
Pour moi, du CFA, tu vas être remplaçant. Et à 16h, il donne la compo et il me dit tu vas jouer titulaire et tu vas charger Bernard Diomède.
Oh, ouais, quand même. Ouais. Champion du monde.
Ouais, champion du monde. Et donc, je dis, ah ouais. J'ai rien dit, je n'ai pas montré, mais ouais. C'est vrai que j'avais une petite pression quand même, parce que c'est Bernard Diomède.
Oui, très beau joueur.
Très bon joueur. Il était faufolé, oui. Exactement. Et donc, je me dis, waouh. J'appelle mes grands frères, tout. Je leur dis, je joue, j'appelle chez moi, ma famille. Je dis à mon grand frère Djibril aussi, qui connaissait aussi. Il dit, charge-le, il a que le pied gauche. Bon, il m'a donné quelques conseils. Et franchement, ça s'est super bien passé.
Oui.
J'ai fait un bon match, tout le monde était content de moi, Bernard Diomède aussi. Et pour me remercier, il m'a offert son maillot.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
C'est sympa.
Super sympa.
Ouais.
C'était super sympa.
Ah, c'est un gars super gentil.
Classe, gentleman. Ouais. Il a vu que j'étais petit, mais il m'a dit, t'as de l'avenir, toi, tiens, mon maillot.
Ah.
J'étais super content. Wow. Bernard Diomède, champion du monde.
C'est ça, depuis un an.
Et je l'ai encore, en plus, à la maison.
Ah, un bon souvenir, ça.
Exactement.
Ouais. Et tes coéquipiers à cette époque-là, il y avait un jeune Jean-Alain Boumsong, dans cette équipe-là. Lilionalis,
qui était allé jouer à Lens. Ouais.
C'est ça, aujourd'hui. Exactement. Cyril Pouget et d'autres. Ouais. Une bonne petite équipe.
Ouais, Yann Solois. Ouais, c'était une bonne petite équipe. Hein. Bon, malheureusement, cette année-là, on est descendu. Mais parce qu'on a déconné aussi. Mais c'était une très belle équipe. Hein. Je pense qu'on s'est enflammé un peu. Parce que je crois qu'il nous fallait quelques points. Il nous restait 8 matchs ou 6 matchs, un truc comme ça. J'étais au hasard, je ne me rappelle plus exactement. Je crois qu'il nous fallait 3 points. On pensait qu'on allait les avoir les doigts dans le nez, mais en Ligue 1, c'est pas comme ça. Je crois qu'on a perdu les 6 matchs à finir, 7 matchs. Et bien, on est descendu.
Ah ouais. Ça tape sur la tête, ça. Waouh, fait mal. D'accord, compliqué.
Puis moi qui venais de commencer en Ligue 1.
Oui.
C'était dommage, quoi. J'aurais bien voulu rester en Ligue 2, mais en Ligue 1, pardon. Mais...
Latéral, alors, à quel latéral. Moment on te remet au milieu
dans l'axe.
Tu préférais jouer dans l'axe
Moi, je connaissais pas latéral, c'est la première fois.
Oui.
Mais je m'en foutais, moi. Moi, tant que je jouais, même s'il m'avait dit gardien de but, j'allais jouer gardien de but. Quand t'es jeune comme ça, on te dit, joue avec les pros. Ouais.
Saisis l'opportunité.
Exactement. Ouais. Et il m'avait mis... parce qu'il était suspendu, il était blessé, donc j'avais pas de choix. Mais après, il m'a remis vite dans l'axe.
Dans l'axe.
Il m'a remis dans l'axe.
T'as joué avec Boumsong alors dans l'axe?
J'ai joué avec Boumsong, j'ai joué avec Jérémy Hénin à l'époque.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Ludovic Paulet aussi.
Et à cet âge-là, quand tu commences à percer, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe un petit peu de toi, quelqu'un qui t'a aidé à comprendre ce que c'était le haut niveau? Parce que c'est pas toujours évident, les premiers matchs.
Christophe Orlaville, je sais pas si vous vous souvenez, c'était avec le seul ancien qui parlait beaucoup avec les jeunes. Et c'est vrai qu'il me parlait beaucoup, lui. Et il me disait, tu peux faire quelque chose. Et je m'entendais super bien avec lui. D'habitude, c'est rare, les anciens et les jeunes. Les anciens restent entre anciens.
Ouais, ils se protègent un peu. Ouais,
ils ont peur de la concurrence, qu'on prenne leur place.
Voilà.
Et Christophe Orlaville, c'était l'un des seuls anciens qui venait parler aux jeunes. Mais sinon, non, personne. Chacun pensait à sa gueule. C'est tout. Enfin, ça...
Oui, non, mais c'est un sport collectif. Mais effectivement, mais chacun.
Ça reste individuel.
Aussi...
Hein, bien sûr. Comme je dis tout le temps, c'est un sport collectif, mais c'est individuel.
Je veux que mon équipe gagne, mais je veux aussi être dans l'équipe. Ouais. Et pas à l'autre, là.
Il y a même des joueurs, parfois, ils préfèrent que même l'équipe perde et eux, ils marquent.
Ouais.
Ça arrive. Hein.
Ouais.
On va pas dire de nom, mais ça arrive souvent.
Pas encore, en tout cas. Peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Les amis, vous écoutez Les Matchs de ma vie, le podcast de Beansport où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Souleymane Diawara, le joueur qui donnait tout sur le terrain. Et parfois, il donnait tout aussi en boîte de nuit. Il est vrai, Soulé, que tu avais la réputation d'être un des fêtards du football français à l'époque. Une réputation méritée ?
Bon, j'assume, moi, j'aimais sortir. Mais parfois, j'entends les gens parler en disant « je sortais tous les jours ». J'ai dit « bon, tous les jours ». Je pense pas que j'aurais pu faire carrière si
non, tu peux pas.
J'étais sorti si je sortais tous les jours, mais c'est vrai qu'après les matchs, victoire ou défaite, j'aimais bien sortir. Étant donné que j'arrivais pas à dormir,
oui.
Donc je préfère aller dépenser un peu d'énergie en boîte de nuit et rentrer chez moi dormir.
Oui.
Mais je vous rassure, il y a pire que moi. Oui, il y a pire que moi.
Alors on va donner des noms. Alors.
non, je vais pas donner de noms. Mais je pense que vous avez plus de dossiers que moi sur ce sur ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup pire que moi parce que moi je m'en cachais pas.
Oui.
Je m'en cachais pas. J'assumais totalement. Est-ce que tu sors? Oui, je sors.
Oui. Non, mais faut être sérieux, juste un moment par rapport à ça. Chacun est différent, effectivement. Et parfois, on a besoin de sortir quelque chose de soi pour être bien le lendemain.
Je n'aimais pas avoir trop d'énergie.
Uh-huh.
C'est bizarre ce que je dis, mais j'avais besoin d'être un peu fatigué, moi, pour être, pour me rebooster. Parce que quand je me sentais trop bien, peut-être je me laissais faire.
Ah ouais.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. J'ai tellement d'énergie, je me dis, oh, mais c'est bon, là, je suis en forme, là. Je vais pas aller à 100%, par exemple, sur une action. Je vais moins te concentrer. Alors que quand je suis un peu fatigué, il faut que je me donne. C'est une source de motivation. Bon, c'est pas une excuse, attention, mais c'est. Bon, c'était pour moi. Moi, j'avais besoin de ça, en tout cas.
Ouais, besoin de se défouler.
Exactement.
Le saouler. Et il y avait aussi cette histoire. C'est. Jean-Louis Gasset, non, à Bordeaux, cette histoire-là.
Elle va me tuer. Je l'ai vu à Marseille, je dis, non, c'est bon, on ne va plus parler de ça. Mais oui.
Parce qu'à un moment donné, je donne le contexte.
Ouais, oui.
On est sorti un petit peu de la liste, là.
Ouais.
Mais, petite parenthèse, tu es allé jouer au Girondins.
Ouais.
Et dans un premier, il y a Laurent Blanc.
J'arrivais de Charlton.
Voilà, on va parler de ça tout à l'heure. Jean-Louis Gasset, donc l'adjoint de Laurent Blanc. Et apparemment, les premiers matchs...
Catastrophique.
Ouais.
Catastrophique. Pendant un, deux mois, presque trois mois, presque. Et même Jean-Louis Gasset, il s'est demandé s'il avait recruté Souleymane Diawara, comme il me dit, ou mon grand-père. Il m'avait sorti ça. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Puis, on a eu une discussion. On a eu une vraie discussion et après l'entraînement, il m'a convoqué, il m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, est-ce que tu as changé quelque chose dans tes habitudes. Moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit la vérité, que je sortais plus, je mangeais
sain,
alors que c'est pas mon truc. Et voilà, donc il est venu, on a parlé, il m'a dit il veut que je retrouve ma vie de bâtard. Et je lui ai demandé s'il était sûr de ce qu'il disait. Et quand il m'a dit oui, je dis bon, ok, c'est parti. Et c'est vrai que quand je me suis lâché, je suis redevenu moi-même, j'ai retrouvé mon niveau.
Ça faisait partie de ta personnalité.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Sans ça, tu n'étais pas Souleymane Diawara. Ok, très bien. Tu as repris ta vie de bâtard du côté de Bordeaux. Mais on va revenir sur ta liste. Avant tout cela, nous sommes le 17 avril 2004, Soulé. On est au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue entre ton club, le FC Sochaux, et le FC Nantes. De quoi te souviens-tu de cette finale-là?
Deux choses. Mon pénalty marqué. J'avais tiré le penalty à la fin.
Oui, c'est en se tirant au but.
Et surtout, quand on a soulevé le trophée, quoi.
Ouais.
Quand j'ai soulevé le trophée au Stade de France, devant ma famille.
Ah.
Parce que ma famille était tous venus du Havre. Et
tout le monde était là?
Tout le monde.
Les parents aussi?
Non, à part mes parents.
Mais tous les frères et
sœurs? Frères, sœurs, cousins.
Oh, waouh.
Ouais, on était beaucoup, moins d'une cinquantaine.
Ah oui.
Ouais, c'était mes potes, tout le monde.
Ouais.
Et c'était un moment magique, quoi. Stade de France, le stade, il venait d'être à peine construit parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc, c'était pas tout le monde qui avait la chance de pouvoir fouler le Stade de France. Et j'ai eu la chance de fouler en portant ce trophée.
J'ai eu la chance de parler avec un de tes anciens coéquipiers, celui avec qui tu as partagé la chambre, qui me disait, Gregory Paisley, pour ne pas le citer, ma taupe à moi, il m'a dit, Soulé, que tu t'es très stressé avant cette fin. Tu n'arrivais pas à dormir.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
J'arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait.
Ouais.
J'arrivais pas à dormir. Même, on le voit au début du match, même la première mi-temps, je crois que je foire ma première mi-temps où le but, ça vient de mon côté. Mais j'avais dit à Greg, t'arrives à dormir, toi, t'as réussi à dormir. Pourtant, moi, je suis un gros dormeur. Même la sieste, j'ai pas réussi. La veille, j'ai pas réussi. Et je lui ai demandé, il m'a dit, ouais, non, bon, ça va, j'ai dormi.
Ouais. Il est tranquille, Greg.
Ouais, le chinois, il était.
Oui, vous étiez pote déjà
du Havre. Du Havre, ouais, exactement.
Et, ouais.
Et c'est une personne que j'apprécie énormément, Greg. Et lui, pour le coup, il m'a beaucoup aidé, lui, tu vois. Et je lui ai expliqué que j'étais stressé, j'arrivais pas à dormir. Alors que c'est pas dans mes habitudes.
Oui, oui.
Le fait d'être en finale, devant toute ta famille, tes potes, au Stade de France.
Ouais.
C'est peut-être ça aussi.
Hein. Ouais, forcément. Ouais, ouais, non, mais c'est pas évident.
On a beau faire les caïds, mais on est tous des joueurs de foot, des êtres humains. Il y a la pression qui est là.
Oui, bien sûr. Bien sûr, et cette finale, quand même spéciale, effectivement. Il y a un partout. Après prolongation, tir au but. Et une sacrée séance de tir au but, parce qu'on va rappeler au bon souvenir de ceux qui ont vu cette finale-là. À un moment donné, vous avez votre coéquipier suisse, Johan Lanfin. Lui, il tire pour la victoire. Il ne marque pas.
Il marque quoi ?
Sylvain Armand marque. Et maintenant, c'est toi. La pression là, parce que si tu ne marques pas, Sochaux perd.
Ouais.
Déjà, tu voulais tirer ou on t'a poussé ?
Non, j'ai voulu tirer. Mais justement, c'est... Enfin, après, c'est bizarre. Hein. Voilà, vous allez me dire, je ne suis pas comme tout le monde, mais autant j'avais la pression avant le match, jusqu'à la mi-temps. Et autant qu'après les prolongations, quand le coach Guy Lacombe il me dit, qui veut tirer, j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de mains qui sont levées. Moi, réflexe, je lève la main.
Direct.
Je me suis dit, il va me dire, reste derrière.
T'es gentil.
Toi, voilà. Je pensais qu'il allait me dire ça. Et je vois, il prend le stylo, il me dit, OK, numéro 3, 4, je ne me rappelle plus. Donc moi, j'y vais, je prends mon ballon et je sais que si je rate, on est mort.
C'est ça.
Mais
et là, ça ne te touche pas, cette pression-là.
Je ne pense même pas à rater, en fait.
Ah bah tant mieux.
Et je ne pense même pas... C'est vrai que si je rate, on est éliminé.
C'est ça, t'es en 6.
Je ne sais même pas, je suis allé tranquille.
D'accord. Parce que pour beaucoup, ce chemin...
Entre...
Oui, la ligne médiane pour aller jusqu'à
son passe de réparation.
Ça peut paraître très loin.
Mais je te promets que j'ai... Comment t'expliquer? Je m'en foutais.
D'accord.
Parce que je me dis, il y avait des cadres de l'équipe, ils n'ont pas osé lever la main. Oui. Je me dis, bon, je marque, je rate. Écoute, tout le monde rate. Hein. Les meilleurs joueurs du monde, ils ont raté. C'est pas Souleymane Diawara. On va pas lui en vouloir si Souleymane Diawara rate un pénalty. Donc, je prends le ballon et je vais comme ça.
Tu y vas tranquille.
Je vais tranquille. Je pose le ballon, je fixe l'endro. Et je le prends à contre-pied. Normal. Et j'étais content parce que par ma famille. Mais je te promets que entre la ligne médiane et je m'en foutais.
D'accord.
Je m'en foutais.
T'étais cool.
J'étais tranquille.
Il n'y avait pas 10 000 trucs dans ta tête.
Rien.
Ah, bah, tant mieux.
Mais ton but.
Il faut être dans cet état d'esprit-là. Ouais.
Hein. Je pense.
Ouais. Waouh.
J'étais sûr de moi, en fait.
Ouais. Tout le monde n'a pas fait ça. Et comme tu dis, sur une séance de tir au but comme ça, peut-être qu'on a déjà pensé à ça avant, mais au moment où il faut y aller, tout le monde n'a pas envie.
Ouais,
on pense à l'équipe de France contre l'Italie, Coupe du Monde 98. Finalement, c'est Trezeguet et Henry qui tirent. Parce que la jeunesse, hein, ils disent « Ouais, on peut bien ». Et d'autres, autour d'eux, ils n'avaient pas levé la main.
Ben, c'est pour ça. Ouais, moi, c'est, je pense qu'il y a eu ça parce qu'il y avait, comme je te disais, des cadres.
Ouais.
Ils ne lèvent pas la main. En plus, moi, je suis arrivé cette année, je me suis dit, bon, on va faire doucement. Je regarde à droite, je regarde à gauche, hop, personne ne lève la main. Moi, je lève la main. Et qui l'a quand même dit oui, et puis je dis, bon, allez, c'est bon.
Allez.
Et je suis parti comme ça, sans pression.
Et c'était bon. Tu as marqué, heureusement. Sinon, on parlera ça d'autrement, effectivement.
Là, on parle plus de Panenka.
Derrière toi, c'est Mika, c'est Landreau, effectivement,
exactement.
Qui vient, il fait le Panenka. qui rate complètement.
Complet.
Terrible.
Richard, il a dit, quand il a posé le ballon, il a vu sa course d'élan.
Ouais.
Il n'a même pas bougé. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, je me souviens, il est resté là.
Ouais.
C'est venu tranquillement. Et après, il y a Maxence Flachez. Flachez. C'est pour la victoire. Ben non. Il ne marque pas. Pascal Delhomo, derrière le Nantais, ne marque non plus. Et c'est Benoît Pedretti qui va tirer. Ouais, il était le petit
cadre. Il avait l'impression de fou.
Ouais, tu m'étonnes.
Je le voyais, je dis, oh, pas toi, c'est toi le cadre, c'est toi
le capitaine. Oui, c'était le capitaine en plus. Là, on parle de numéro 7 ou 8. Il était
fou. Je crois qu'on a fini à 8 quelques, là, je ne sais pas combien. Ouais.
C'était genre, il est où, Benoît? Il est où, le capitaine?
Mais moi, j'ai tiré avant lui, déjà.
Oui, mais bon, il vient quand même et il tire. Et il marque. Et c'est le trophée, c'est l'explosion de joie.
Explosion de joie. Moi, j'étais au paradis, moi. J'étais... Waouh, bah, tu sais, quand t'es footballeur, c'est les trophées qu'on retient. Et
ouais.
Mon premier trophée... En Sochaux, ils m'ont fait découvrir pas mal de choses, quand même.
Ouais, déjà, la joie de gagner sur cette belle pelouse. Guy Lacombe, il était comment avec toi, comme entraîneur, Monsieur Moustache?
Ouais, carton. C'était comme mon père, lui aussi.
Ah oui?
Ouais. Autant il y a des entraîneurs que je déteste, qui ça passait pas. Bon, après, c'est comme ça. Hein. On peut pas plaire à tout le monde.
Mm-hmm.
Mais Guy Lacombe, non. C'était ouf. Tout le monde disait que c'était mon père. Donc, mais super bien passé. Il m'a fait énormément progresser. Il m'a fait énormément travailler. Je me souviens quand je suis arrivé, quand j'ai signé à Sochaux.
Mm-hmm.
On va dire, on a fait la préparation, on a fait les matchs de préparation. J'ai vu les buts, il m'a convoqué l'après-midi, je me suis dit, je suis mort. Parce qu'il avait la réputation de crier. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire tout seul l'après-midi? On a un repos, il m'a dit de venir. Bah, figure-toi, il m'a pris. Toute l'après-midi, on a visionné tous mes buts du Havre.
Ah oui?
Qu'on a pris, de la saison.
Oula!
J'ai dit, waouh. T'as vu comment t'es placé? Comment si? Comment ça? Je le regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu veux me faire culpabiliser? Je sais qu'on est descendu, mais en gros, c'est de ma faute ou... tu vois? Parce qu'il m'a montré tous les buts qu'on a encaissés.
Wow.
Mais grâce à ça, il m'a fait progresser. Tu dois te mettre comme si, comme ça, comme si, comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui encore, de temps en temps, j'ai des nouvelles de lui, mais non, Guy Lacombe, c'est vraiment...
Il a compté.
Ouais, énormément.
Un président aussi que tu as apprécié, non? Jean-Claude Plessis.
Jean-Claude Plessis. C'était mon grand-père, lui. Non, à Sochaux, j'ai eu la chance de tomber sur des dirigeants magnifiques qui étaient là pour moi. Bon, après, je mouillais le maillot aussi, donc c'est normal. Mais ça s'est super bien passé à Sochaux.
Il y avait des bons joueurs à cette époque. Et, tu as même joué à tes premières coupes européennes avec Sochaux.
Exactement.
Je me souviens.
C'est pour ça que je te dis, ils m'ont fait découvrir la Ligue, la finale. Coupe d'Europe.
Ça me revient maintenant, je suis venu pour... Il n'y avait pas un match contre Newcastle?
On a joué Newcastle, exactement.
Oui, oui, j'étais à ce match-là.
Et je crois qu'on avait gagné. Hein.
Non, je pense pas.
Oui, non, on avait perdu là-bas, je crois, et à domicile, on avait gagné.
Ah oui, tu penses?
Ouais, je crois qu'on vous a tapé. Hein.
On va vérifier ça. Quelque chose me dit que Newcastle est venu gagner à Sochaux.
Ah ouais?
Quelque chose me dit. Mais on va... On va se dire qu'on vérifie ça tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, le football européen, quelques souvenirs pour toi avec Sochaux?
Une des matchs, Dortmund.
Oui.
Je pense que c'est la première fois que je jouais contre une grosse équipe européenne. Et j'ai eu la chance de jouer contre le Borussia Dortmund. Premier match là-bas.
Sacré stade.
Ouais, stade de fou. Mais j'étais impressionné, choqué. Nous, on vient du Havre, Sochaux. J'arrive derrière à Dortmund, le mur jaune, il y a 90 000 personnes, je ne sais pas où, 30 000 personnes derrière, ça criait. Ouais. Je me souviens même le coach, il nous avait dit en première mi-temps, il faut prendre ce côté-là, sinon on est mort. En deuxième mi-temps, ils vont pousser. Et on avait perdu le toast, donc la deuxième mi-temps, on a joué là-bas. Et
ensuite,
je crois qu'on fait 3-3 là-bas. On a réussi à faire un résultat et c'est vrai qu'au match retour, on les a torpillés 4-0.
Incroyable.
Incroyable, et ce match-là... Pour mon premier match.
Pas mal, européen, ça. Ouais.
Dortmund,
parce que là, tu le sens, c'est un vrai test supplémentaire, quoi. Là, tu passes une étape. Hein.
Ouais. Déjà, j'ai toujours voulu jouer des matchs européens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant d'aller à Sochaux, je devais aller à Lille. Mais Lille, il ne jouait pas là, à l'Europe. Mm-hmm. Au dernier moment, Sochaux m'a appelé. Certes, il y en a plein qui m'ont dit « Non, mais qu'est-ce que tu vas faire à Sochaux? Il fait froid, il n'y a rien. » Mais je ne vais pas pour le soleil, je ne vais pas pour le truc. Je vais pour jouer des matchs européens. Et Sochaux m'a donné la possibilité de pouvoir effectuer ces matchs-là.
On va dire que tu as fait le bon choix avec ces matchs européens et une Coupe de la Ligue, donc, avec cette belle équipe de Sochaux, avec Guy Lacombe et Jean-Claude Plessis. Ouais. Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Suleiman. Nous sommes le 5 mai 2010 désormais. 12 mois plus tôt, tu es champion de France avec Bordeaux. Là, tu joues pour l'Olympique de Marseille dans un stade Vélodrome bouillant. Il faut une victoire contre Rennes pour que tu sois de nouveau champion. Raconte-nous.
Ouais.
Tu vois encore les images, là?
Ouais. On devait... parce que je crois qu'il restait deux journées ou une journée après... C'était avant la fin du championnat. Mm-hmm. Et si on gagnait, bah, on était champion, quoi. Et là, stade plein, la ville avait déjà préparé de quoi faire la fête après le match. Et on joue et on gagne 3-1, mais Jimmy Briand, il met le but 1-0. C'est pas ça? On perd 1-0.
Gabby Hines marque sur coup franc d'abord, pied gauche.
C'est pas illégalisé.
Ça contourne le mur. Non, il a marqué le premier.
1-0.
J'ai regardé.
Ah, non, il fallait
et Jimmy Briand,
il
égalise.
Il a mis la clim au stade. Waouh. J'ai dit, Jimmy, qu'est-ce que tu fais? J'étais sur le terrain. J'ai dit, ah, frérot, nous on joue. Hein, nous, on va pas être champions, on s'en fout, nous. J'ai dit, ah, c'est vrai, t'as raison. Et je crois, 1-1. Et je crois, en deuxième mi-temps, on revient gonflé à bloc et. Ouais. Mama a dit, viens, il marque et Lucho, il arrive.
Voilà.
Alors là, c'était l'euphorie. Là. Ah, ce match-là, là. La fête au Vélodrome, c'était. Et après ça, dans la ville, dans la soirée. Non, ça, je ne peux pas oublier ce match. C'était magnifique.
Mamadou Niang, ton grand pote.
Exactement.
C'est lui qui t'a convaincu de venir à Marseille après Bordeaux?
Convaincu, bon, il ne m'a pas convaincu parce que bon, l'OM, je pense que c'est très difficile de. Quand il y a un club comme l'OM s'intéresse à toi, c'est très difficile de pouvoir dire non. Mais c'est vrai que je lui ai posé pas mal de questions et bon, ça joue aussi, bien évidemment, mais j'étais déjà convaincu déjà. J'étais déjà convaincu.
Cette équipe de l'OM avait de la gueule, comme on dit, avec les joueurs que tu as déjà cités. Il y a Didier Deschamps sur le banc, il y a Mandanda, il y a Thembé Naïfa, Edouard Cissé était là-bas aussi.
Ouais.
Il y a un bel effectif quand on regarde les joueurs. Mais l'OM n'avait pas été champion depuis un moment, donc cette explosion de joie
exactement.
Était liée à ça.
Mais ça avait commencé avant, parce qu'on gagne la Coupe de la Ligue avant le championnat.
Oui.
Et j'ai vu pour juste une Coupe de la Ligue, le monde qui nous attendait à l'aéroport pour une Coupe de la Ligue.
Ah ouais.
C'est juste une Coupe de la Ligue, quoi. Enfin, c'est pas que je me suis habitué, ça reste un trophée quand même. Mais j'ai vu la ville, comment elle était pour une Coupe de la Ligue. Et José Anigo, je me souviens, j'étais à côté de lui, dans le car. Et il m'a dit, gagne le championnat, tu vas voir la ville. Ça va être deux fois plus que ça. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, toi. Il me dit, bah, regarde, gagne. Je dis, OK. Et moi, je lui dis ça comme ça, OK. Pour... Mais je le pense. Hein.
Ouais.
Et quand on gagne le championnat, j'ai été le voir à José. J'ai dit, José, t'avais raison. Ça n'a rien à voir avec, la Coupe de la Ligue. Bah, il y avait plus de 100 000 personnes là, qui sont venues de toute la France. Non, c'était magnifique. C'était abusé. C'est pour ça que je ne peux pas oublier ce match-là.
Et la soirée était longue, alors vous êtes allé où
On n'a pas dormi. On n'a pas dormi pendant au moins une semaine. On n'a pas dormi. On est resté sur Marseille, Aix. La semaine d'après, je crois, on jouait à Lille.
Ouais.
Bah, nous, on était dans notre... Dans notre joie, donc...
Après une semaine de fête.
On a joué un dimanche, je crois. Ben, le samedi, pareil, on faisait la fête et de la boîte avec certains coéquipiers. On est parti direct à l'aéroport, tranquille. On était mort bourré. On a joué, je crois qu'on a fait l'un des meilleurs matchs, l'une des meilleures prestations contre Lille. Lille, il devait gagner contre nous pour jouer la Ligue des Champions. C'était entre eux et Lyon. Et je me souviens, les joueurs, ils sont venus, ah, vous abusez, laissez-nous gagner. J'ai dit, la moitié d'équipe est bourrée, vous n'arrivez pas à nous battre, tu veux qu'on fasse quoi de plus? Mais bon, à la fin, ils ont gagné 1-0. Mais ouais, non, on avait fait la fête pendant. Ouais, jusqu'à la reprise, quoi. Jusqu'à la reprise.
Des super souvenirs. Tu as eu donc Laurent Blanc à Bordeaux et puis Didier ouais. Deschamps à Marseille, deux champions du monde, deux grands entraîneurs. Ça se passait comment avec eux? Quels sont tes souvenirs?
Nickel. Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Ils m'ont fait énormément progresser. Beaucoup parlé, on se parlait beaucoup avec Deschamps et Laurent Blanc. Non, c'est que des bons souvenirs. Vous savez, quand vous gagnez des titres, vous avez que des bons souvenirs. Hein. C'est plus facile, hein. Donc, non, mais Laurent Blanc, parce que on jouait déjà au même poste.
J'allais dire, oui.
Donc, on échangeait beaucoup. Je faisais partie de ces cadres, donc. Deschamps pareil, il me voulait aussi, donc moi vous savez quand un coach me veut, moi je suis prêt à mourir pour lui sur le terrain, parce que je me dis la confiance qu'il a en moi, il faut que je lui rende sur le terrain, donc c'est que des bons souvenirs, Laurent Blanc et Didier Deschamps.
Qui gagne entre l'équipe de Bordeaux champion en 2009 et l'équipe de Marseille champion en 2010?
Ah ouais, c'était difficile parce qu'à Bordeaux on avait une belle équipe. Hein.
Ouais.
Ouais, Gourcuff, Lou Diarra, Marouane.
Eh oui, ça jouait. Ouais. Ouais, t'avais le meilleur de Gourcuff, effectivement. Hein.
Je pense. Mais on avait la deuxième partie, à Tem Ben Arfa aussi.
Ouais.
Valbuena aussi, Ben Chérou, Edou. Il y avait Morientes, Gabi Enzo. Non, ouais, c'est chaud. je dirais match nul.
Match nul. On va rester diplomate. Voilà. Hein, allez, hein. On va pas faire pleurer les uns les autres. On
reste match nul.
Match nul, ok. Bon, on arrive presque à la fin. Soudain, on a fait les cinq matchs plus quelques petits bribes d'autres rencontres, mais on n'a pas eu le temps de parler, par exemple, d'Angleterre et cette saison avec Charlton Athletic à Londres. C'était bien chez les Roast Beef.
Franchement, je me suis régalé.
Pourquoi une seule saison alors?
Parce que...
Marre de la bière et fish and chips.
Ouais, ça me faisait grossir, la bière, tout ça. Non, mais plus sérieusement, parce que, bon, à la fin, je ne m'entendais plus avec le manager, Alan Pardew.
Ah ouais. Spécial.
Ouais, après, je ne le connaissais pas. Bon.
Non, il a une réputation en Angleterre.
Ouais. C'est son choix, donc... Donc, on est parti un peu en clash, en dispute, en insulte. Et je lui ai dit que je voulais me barrer. Je crois qu'il a pris l'équipe vers mi-saison, on va dire.
Uh-huh.
Et alors que je jouais mes matchs. Mais bon, après, c'est un choix. Et bon, je ne fais pas partie de ses plans.
Mm-hmm.
Je respecte ça. Sur ça, il n'y a pas de problème. Moi. Donc, je m'entraîne. Je ne peux pas jouer une fois, deux fois. Tu me mets en tribune, de titulaire, tu me mets 19e. Ok, ouais, bon, écoute, je te compte pas sur moi, me convoque pas, laisse-moi là, je suis pas un enfant, tu vois. Une fois, deux fois, on se prend la tête. Je dis rien, je garde sur moi. Une fois, je pars du match, il m'a mis 19e, je pars, donc ça a commencé à faire des histoires. C'est normal. Mais, à la fin de saison, bon, à un moment, il avait pas le choix parce que, tout le monde était... Soit il y avait beaucoup de suspendus et des blessés, donc il m'a fait jouer. Et comme par hasard, quand je joue, boum, je fais des bons matchs. Mais bon...
Ah, c'est embêtant pour l'entraîneur. Ah,
c'est embêtant. Et dernier match, boum, il me remet en tribune.
Okay.
Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et j'avais Aston Villa qui était venu, Bolton et West Ham. Il a dit, non, j'ai besoin de lui. Il ne voulait pas que je parte. Tu me fais pas jouer. J'ai les clubs qui arrivent, sont prêts à mettre un peu d'argent, ou gagner de l'argent. Tu me dis non. Tu veux que je reste en Ligue 2 et que je sois ton capitaine. J'ai tout fou de ma gueule, j'espère. Non, je lui ai dit. J'espère
tout ça en anglais, bien sûr.
Oui, en anglais, yes. Anglais français.
You are footing off my girl.
Et donc, on est parti. Non, il y avait mon agent en plus. Donc, c'était chaud dans son bureau. Parce qu'il me dit, il compte sur moi l'année prochaine en Ligue, en Championship. Il veut que je sois son capitaine. Je dis, pas du tout, en fait. Je veux pas être ton capitaine, je veux rien de toi. Donc, comment ça N'oublie pas que t'es sous contrat. Bon, ça parle. Je dis, je m'en fous de ton contrat, je veux plus rester là. Je veux partir. Non, en Angleterre, c'est fini pour toi. Voilà. J'ai dit, je m'en fous, je veux retourner en France. Mais j'avais même pas de club encore. Et là, c'est là que Jean-Luc Gasset est arrivé, m'a appelé avec Laurent Blanc. Mais sinon, c'était une expérience incroyable. C'est juste Alain Pardieu qui a niqué mon expérience.
Ouais. Mais comme quoi, il y a des moments dans la vie comme ça. On est devant une fourche, on peut aller à droite, à gauche. Exactement. Peut-être qu'en Angleterre, tu aurais rejoint un plus gros club et réussi, mais en revenant en France, tu es deux fois champion avec Bordeaux.
Oui, c'est ça. Après,
et puis après, avec l'OM.
Parce que parfois, c'est ça. Pour mieux reculer, pour mieux sauter, comme on dit. Mais c'est vrai que j'avais ce côté où j'avais envie de m'imposer en Angleterre. Parce que c'était un championnat excitant. C'était magnifique. C'était l'intensité, le public. Avec Charlton, on était dernier, avant-dernier. Le stade, il était complet. Ça chantait. On perdait 3-0, 4-0, je me souviens, contre Liverpool. Ça criait, ça chantait. Mais il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit ça. En général, on se fait insulter un peu. Et malheureusement, Alain Pardieu a mis stop à ma carrière anglaise.
On ne la salue pas, Alain Pardieu, pas du tout. Un petit mot avec tes expériences en équipe nationale avec le Sénégal. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi, qui est parti de très jeune du pays, mais par rapport à ton père et ta famille?
C'était une grosse fierté. Quand la première fois que j'ai dit qu'il y a le sélectionneur qui m'a appelé pour que je vienne rejoindre la sélection, je crois que ma mère... Elle y croyait pas.
Ah oui?
Non. Parce qu'en plus, il sortait de la Coupe du Monde 2002 quand le Sénégal gagne contre la France. Donc, pour nous, c'est historique. Hein. Bien sûr. Sénégal qui bat la France en 2002, quart de finale. Ils étaient au top, le Sénégal. Donc, la sélection d'après, je suis sélectionné. Toujours en Afrique du Sud. Et quand je dis ça à mes parents, bon, ils ont pas pleuré, mais j'ai senti une fierté, une joie. Ainsi que mes cousins en Afrique, puis même pour moi aussi. Donc, bon, j'avais une présélection avec la France A prime, l'équipe de France A prime. Mais bon, ça c'est un match tous les deux ans. Oui. J'avais refusé et je suis parti pour le Sénégal.
Ça alors, des bons souvenirs.
Ouais, exactement. Ouais. C'est que des bons souvenirs. Bon, après, quand vous êtes dans le foot, je pense que c'est que les bons souvenirs. Quand t'as la chance d'être professionnel, c'est t'as que des bons souvenirs parce que tout le monde rêverait d'être là.
Oui. Mais après, c'est une question de personnalité aussi. Tu es quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, peut-être.
Oui, aussi. Oui. Aussi. Parce que je me dis. Non, bah. Ouais. Parce que j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire la gueule quand t'as la chance d'être footballeur professionnel. Alors que ton père, il est ouvrier, les gens, ils galèrent entre guillemets. Toi, tu as la chance de vivre de ta passion. Donc, t'as pas le droit de faire la gueule. Et puis, on te donne pas des miettes.
Oui.
C'est les gros sous, non, mais pour te dire. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours joyeux. Quand je jouais, j'étais toujours joyeux parce que je me dis, j'ai de la chance.
On est d'accord. De toute façon, mon père travaillait à l'usine.
Ouais.
Moi, je suis payé pour aller regarder les matchs de foot et en parler.
Et tu vois,
wow.
C'est passion. Non, mais c'est vrai. Tu vois, t'es payé pour aller voir. Alors qu'en temps normal, c'est toi qui allais payer pour voir un match. Et nous, c'est pareil. On paye notre licence pour aller jouer. Et là, on te paye pour que tu joues.
Et oui.
Tu vois.
On garde le sourire, forcément. Un mot sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qui t'attend maintenant? Apparemment, tu es un peu dans les poubelles ces jours-ci.
Bon, ça fait longtemps.
Qu'est-ce
ça
que
fait
ça longtemps, veut dire c'est quoi? Tu es en train de devenir le Louis Nicolas des poubelles en Afrique.
Là, ça serait mon rêve, ça. Ouais, mais depuis, j'avais créé une société en 2006, quand j'étais à Bordeaux. C'est Bordeaux. Charlton. Bon, j'avais que ça à faire. Alain Pardieu me calculait pas, donc j'ai eu le temps de créer une société de ramassage d'ordures J'essaie de développer ça un peu en Afrique. Je me régale avec mes petites poupées.
Ouais, ça se passe bien.
Ça va, ça va.
Ouais. On se plaint pas. Formidable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre ?
Bon, la santé, le bonheur, c'est tout. Le reste, on l'achètera, comme il dit.
Ok, bon, on te souhaite le meilleur.
Merci beaucoup.
Dans les poubelles et ailleurs.
Merci.
Soulé, merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous pouvez aussi en parler sur vos réseaux sociaux, bien sûr, et sur la plateforme où vous nous écoutez. Si vous voulez, en plus, nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes, eh bien, n'hésitez pas. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.
Bye.